session.
Tuji ni bisuba bisatu
bya bina mukanda ewu.
Hier nous avons la première.
Wa makele la to comme ni tuba cha kumpala.
Aujourd'hui nous avons la deuxième.
Le tuji ni tuba chi biji.
Et demain la dernière.
Makele la tuya yokwela ko ya nkomba kubwa lwebu.
Petit résumé de ce que nous avons vu hier.
Uji muchukoso wa bito ko muna makele la.
Nous avons vu la fin de la vie de David. Et le début du règne de Salomon. Nous avons vu que Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Et il a répondu l'intelligence et la sagesse pour bien gouverner le peuple. C'est un bel exemple pour nous de rechercher de Dieu le discernement des choses. Et Dieu lui a donné cette sagesse, cette intelligence. Et en plus, beaucoup de richesses. L'œuvre principale de Salomon, c'était la construction du temple. David avait déjà préparé plusieurs éléments. Et Salomon a construit le temple environ deux fois plus grand que le tabernacle. Avec l'aide, il l'a construit de Hiram, le roi de Tyr.
Qui
était des constructeurs.
Il
savait surtout bien couper les grandes poutres de bois des cèdres au Liban. Salomon a construit ensuite son palais. Plusieurs palais. Il a été un scientifique. Il a étudié les choses de la nature. Les animaux. Il a été aussi un homme de lettres. Qui a fait des poèmes, des proverbes. Sa gloire a rayonné sur les pays aux alentours. Il a reçu notamment la visite de la reine de Sheba.
Il
a été impressionné de sa gloire. Malheureusement, à la fin de sa vie, comme il avait pris beaucoup de femmes, notamment des femmes étrangères. Les femmes n'ont pas suivi le vrai Dieu. Elles ont apporté leurs croyances idolâtres. Elles ont fait des hauts lieux d'hôtels idolâtres. Et petit à petit, Salomon qui s'était attaché à ses femmes, à la fin de sa vie, il a suivi une partie de cette idolâtrie. Il a provoqué la colère de Dieu qui a annoncé que le royaume serait divisé. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour bien comprendre maintenant cette division, c'est important que l'on ait des notions de géographie. Géographie des pays bibliques.
Alors, plusieurs d'entre vous, ils ont aussi, à la fin de leur Bible, les cartes
de Jésus. Babouni, Babou, Tuchi. Babadine, Mikanda, Yan, Falance.
Ceux qui ont des cartes, ils peuvent les ouvrir. La carte du royaume divisé. Alors, ce n'est pas la carte générale de l'Orient. Ce n'est pas la carte des douze tribus. Ce n'est pas non plus la carte au temps du Seigneur Jésus. Mais si vous en avez une, c'est la carte du royaume du nord et du royaume du sud. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre la carte des tribus d'Israël.
Alors,
nous sommes ici à Kalanga. La République démocratique du Congo. Nous remontons à travers le Sahara. Nous arrivons au bord de la mer Méditerranée. Ici, il y a le Maroc. De l'autre côté de la mer, il y a l'Espagne. Ici, il y a la Tunisie. De l'autre côté de la mer, il y a l'Italie, la Sicile. Ici, il y a la Libye. De l'autre côté de la mer, il y a la Grèce. Ici, il y a l'Égypte. De l'autre côté de la mer Méditerranée, il y a aujourd'hui, c'est la Turquie. Mais à l'époque, ce n'était pas la Turquie. C'était principalement des populations grecques aussi. Et maintenant, nous arrivons au pays biblique. Le pays d'Israël. La mer de Galilée, la mer morte, ici nous avons Jérusalem, au nord, au bord de la mer, il y a la Phénicie, et le Liban aujourd'hui, et ici nous avons la Philistie, le pays des Philistins, aujourd'hui, c'est la bande de Gaza. Ici, nous avons l'Arabie. Nous avons l'Irak et la Syrie. Maintenant, nous nous rapprochons comme un zoom de caméra. Et nous avons le pays d'Israël. Nous retrouvons la mer Méditerranée. En haut, la Phénicie ou le Liban. C'est là qu'il y a la ville de Tyre. Que nous avons vu hier. Et son roi était
Hiram.
Il y a beaucoup aidé Salomon à construire
le temple.
Notamment grâce au bois de cèdre. Il y a dans les hautes montagnes du Liban. Ici nous avons les Philistins. Ici, plus loin, nous aurions
l'Égypte.
Et nous retrouvons la mer
morte.
Le Jourdain. La mer de Galilée. Plus tard, le lac de
Génézaret.
Au nord-est, il y a la Syrie. Avec la capitale Damas. À l'est du pays d'Israël, il y a Amon. Au sud-est, il y a Moab.
Ensuite, il y a Edom. Toutes ces populations vont être souvent en conflit avec Israël.
Les
Philistins,
les Moabites,
alors David et Salomon ont régné sur l'ensemble du pays d'Israël.
Quand tu vois David ne Salomon, par rapport à ce qui se reste du chemin, il y a Israël.
C'est-à-dire qu'ils vont régner sur ce pays jusque depuis le Liban jusqu'au fleuve d'Égypte.
Par rapport à ce qui se dit tout, il y a Israël. Le bouquin de Salomon qui l'a pour établir Égypte dans le beau pays.
Il y aura une frontière naturelle avec les deux mers et le Jourdain.
À part vous diviser les Israélites à Jourdain, il y a quand même des gens qui vous disent qu'on se le dit tourner qui bim.
Et à l'est du Jourdain, il y a les deux tribus ennemies qui avaient voulu rester de ce côté.
Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
en plus, la puissance de David
et de Salomon, vous pouvez le voir là, Salomon, pour vous
faire qu'ils auront une domination aussi sur Edom, Moab, Ammon et la Syrie.
Vous pouvez le voir là, David et Salomon, parce que vous pouvez le voir là, vous pouvez le voir là, vous
ils devront payer des impôts à
Salomon. Vous pouvez le voir là, vous pouvez le voir là, Salomon.
Nous avions vu la fin du règne de Salomon. Maintenant, Salomon va mourir.
Salomon,
et il y a son fils Roboam qui va régner. Il est intronisé roi. Nous pouvons lire 1 Roi 12,
versets
4 et 5. Alors nous avons vu qu'à la fin de sa vie, Salomon s'est éloigné de Dieu. Ici nous voyons en parallèle qu'il était devenu dur. Avec des impôts pesants sur le peuple. Pourtant, il était très riche. Ce n'était pas nécessaire. Mais on observe aussi aujourd'hui que des fois, des gens qui sont très riches sont aussi durs avec leur contrôle de l'argent.
Mais
c'était ce qu'était devenu Salomon. Alors les anciens du pays viennent vers le jeune roi Roboam.
Et ils vont lui donner le conseil d'alléger les impôts.
Ils lui
disent comme ça, le peuple va apprécier ton règne. Alors Roboam, il écoute les personnes âgées d'abord, mais il ne prend pas encore de décision. Après, il va demander aux jeunes de venir, des jeunes qui avaient des responsabilités déjà dans le royaume. Aussi, ses amis avec lesquels il avait grandi. Malheureusement, les jeunes lui disent « Non, il faut montrer ta force et ton pouvoir. » Montre que tu as de la force et deviens encore plus dur. C'est quelque chose que nous connaissons aussi à notre époque. Et qu'est-ce que va faire Roboam devant ces deux conseils contradictoires? Malheureusement, il va écouter les jeunes gens. Et nous voyons ce qu'il a dit dans sa décision qu'il va communiquer au peuple. Et nous lisons le verset 11. Et encore le verset 13. Malheureusement, nous voyons que le roi a choisi la voie dure. Il a répondu très durement au peuple. Avec en même temps beaucoup de vanité. Malheureusement, il n'a pas écouté le conseil des anciens. Les anciens, ils ont l'expérience de la vie. Ils savent comment va réagir le peuple. Mais les jeunes, ils sont souvent un peu prétentieux. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils savent mieux faire que les âgés. Ils peuvent montrer leur force et leur puissance. Malheureusement, Roboam les écoute. Nous lisons la conséquence au verset bas. Excusez-moi, d'abord le verset 19. 19
et 20. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit?
Eh bien, nous voyons la conséquence. Les 10 tribus du nord se rebellent contre la maison de David, c'est-à-dire le royaume de Juda. Ce qui va devenir après le royaume de Juda. Et ils se choisissent un roi qui s'appelle
Jéroboam.
Jéroboam, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de capacités.
Jéroboam avait beaucoup de capacités.
Et déjà, Salomon lui avait donné des responsabilités. Mais comme il voyait qu'il prenait du pouvoir, Salomon avait voulu le mettre de côté. Salomon avait même cherché à le faire mourir. Salomon avait compris qu'il y avait un danger pour son pouvoir. Alors Jéroboam avait fui en Égypte. Quand Salomon meurt, Jéroboam revient à Jéroboam. Et à ce moment-là, c'est le pays d'Israël du Nord qui lui dit, viens être notre roi. À ce moment-là, Roboam, il veut empêcher la division. Il prépare l'armée
d'Israël
pour faire la guerre au Nord. Et ensuite, la parole de Dieu vient à un homme de Dieu, nous n'allons pas tout lire le détail, pour parler à
Roboam.
Lui dire qu'il ne faut pas faire la guerre civile. C'est son beau-frère. Il faut retourner chez soi les soldats. Parce que cette division vient de Dieu. Et ils ont écouté cette parole du prophète. Et ils n'ont pas fait la guerre. Et c'est pour ça qu'alors Jéroboam est devenu le roi au nord. Et Roboam a continué au sud. Alors le royaume va se diviser environ comme cela. Judas était une grande tribu avec la capitale Jérusalem. Et la petite tribu de Benjamin est restée avec lui. Ça fait deux tribus pour le royaume de Judas. Au nord, il y a les 10 tribus. Jéroboam dit tout le monde qu'il va adorer au temple à
Jérusalem.
Donc ils vont continuer de respecter la royauté à
Jérusalem.
Après quelques temps, ils ne vont plus me respecter. C'est une réflexion humaine. Alors il va faire quelque chose de très mauvais. Au nord d'Israël, il y a une ville qui s'appelle Dan. Il va mettre là-bas un hôtel avec un mot d'or. Il dit, allez adorer là-bas.
Le mot d'or.
Au sud, à Bethel, il va faire un deuxième
veau d'or.
Et
Et comme ça, il dit à ses tribus, adorez ou bien Adam ou bien Bethel, ce qui est le plus près. Mais n'allez pas à
Jérusalem.
Alors ça, c'est une chose qui a fortement déplu à Dieu.
Et
malheureusement, les rois qui vont suivre en Israël ne vont pas détruire
ces sanctuaires. Ils vont garder cette loi. Ils
vont garder cette loi.
Il peut donc être indépendant du royaume du sud.
Et
lisons en rapport avec cela les versets 26 et 28 de chapitre 12.
Au chapitre 12,
Jusqu'à
28.
Voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer, la création de ces deux centres idolâtres avec les veaux d'or.
Je demande à ce que vous soyez là,
celui du sud à Bethel va être détruit seulement 300 ans plus tard.
Par le roi Josias.
Maintenant, je profite de vous faire un petit conseil de prendre le syllabus où vous voyez bien la partie qui change. La première page, vous avez un coup d'œil sur un roi.
Vous
voyez mort de David, croissance de Salomon, puissance et déclin de Salomon. Après, vous voyez royaume
division.
Division de royaume plusieurs fois. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de un roi.
Mon tableau est mon fatou à
Ensuite, Roboam va mourir.
Roboam va mourir.
Et malheureusement, beaucoup de mauvais rois vont se succéder. Nous allons pas voir dans les détails, chacun peut lire la suite. Ils sont mauvais surtout parce qu'ils sont idolâtres. Dieu
puis va arriver un roi qui va jouer un rôle important.
Il s'appelle Akab.
Il va faire une chose grave. Nous avons parlé hier de l'importance de ne pas marier quelqu'un qui n'est pas croyant. Non seulement il va épouser une non-croyante, mais il va épouser une adoratrice de Baal. Peut-être même une prêtresse de
Baal.
Ça va être une femme très méchante. La reine Jézabel.
Jézabel.
Le royaume à ce moment-là va se mettre à
Samarie.
Qui sera la capitale du royaume du Nord.
Jézabel
va bâtir un temple.
Jézabel est où il y a
pour faire le culte de Baal à
Samarie.
Elle va faire beaucoup de sorcellerie et de divination. À ce moment-là, la situation du peuple d'Israël est très grave. Mais Dieu ne les oublie pas. Et il va envoyer un prophète. Il y aura plusieurs prophètes. Mais surtout, un grand prophète, c'est Élie. Il vient de Galade.
Galade
est
parti
à l'est du
Jourdain.
Nous avons vu hier un rapport avec la prière.
Dans l'épître de
Jacques. Il a dit que Élie était un homme comme nous avec des faiblesses. Mais il a prié avec beaucoup d'instance. Pour qu'il
n'y
ait plus de pluie. Nous savons que quand il n'y a pas de pluie longtemps, ça crée des problèmes pour les cultures. Et là, il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie très longtemps.
Et
il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Alors c'était une catastrophe pour le pays. Nous pouvons lire au chapitre 17,
les versets
1 à 4. Élie réalise que si le peuple d'Israël est dans la sécheresse, il va réfléchir sur ce problème. Il espère qu'ils vont revenir vers Dieu. Alors il va prier beaucoup et Dieu va répondre. Il y aura cette sécheresse terrible. Naturellement, il a peur pour sa vie. Dans le sens, il a confiance en Dieu, mais il sait qu'il doit faire attention. Alors, il écoute la parole de Dieu qui va le mettre en sécurité. Il va partir à l'est. Et se cacher près d'une petite rivière qui s'appelle Kérit. Que nous venons de lire. Pour le moment, il y a encore de l'eau dans cette petite rivière. Donc il peut boire. Et Dieu va même utiliser les corbeaux pour lui apporter à manger. Et ça va durer un certain temps comme ça. Nous voyons, nous n'allons pas tout lire, mais au verset 6, il
dit les
corbeaux lui apportent du pain et de la viande. Mais au bout de quelques temps de sécheresse, la petite rivière, elle n'a plus d'eau.
Alors,
il faut partir. Alors, Élie va faire un voyage. Il suit la parole de Dieu. Qui lui indique qu'il va lui dire Dieu lui indique une dame qui est veuve. Il lui dit va vers elle. Et ça va être pour cette pauvre veuve une bénédiction. Lisons les versets 7 à 9. Toujours 17.
1 Pierre 4:17.
Vensoa, mwanda mutekete nukujiwashi fem. Chapitre wa jivu ni mwanda mutekete. Tujimu chapitre wa jivu ni mwanda mutekete wa bakale ngwa kumujilu. Vensoa, mwanda mutekete to nukujiwashi fem.
Wakati cha matuku, hapu wako, mai angutasubi, akuma, waluka, mbuna,
Éphésiens 2, 20, si je ne m'abuse pas.
Alors cette femme est très pauvre, elle a juste encore un petit peu de farine, un petit peu d'huile. Et cette femme voit arriver Élie qui lui demande à manger.
Elle
lui dit, mais j'ai presque plus rien. Je vais faire un petit gâteau pour moi et mon fils et après nous allons mourir.
Élie
lui dit, il ne faut pas avoir peur. Mais fais-moi d'abord un gâteau à moi. Alors cette femme, elle est à l'épreuve. J'ai déjà presque plus rien pour moi et mon fils et je dois faire à toi un gâteau.
Elle est mise
à l'épreuve.
Elle va le faire pour Élie. Alors cette femme est un exemple de foi pour nous. Aussi quand nous sommes dans la difficulté, de donner la priorité aux choses de Dieu. Parce que Élie représentait la parole de l'Éternel. Ensuite, nous allons lire le verset 16. Alors nous voyons que il y a quelque chose qui a été incroyable qui s'est passé. Elle a fait, la femme a fait le petit gâteau pour Élie avec la fin de l'huile et la fin de la farine.
Et
quand elle est retournée au pot de farine, il y en avait de nouveau. Elle est retournée à la cruche d'huile. Il y avait de nouveau de l'huile. Alors elle a pu se faire un gâteau pour elle et son fils. Le lendemain, il y avait de nouveau de la farine et de l'huile. Il ne s'est pas épuisé de quoi manger. Alors, c'est un exemple pour nous de faire confiance à Dieu pour qu'il nous aide. En lui donnant d'abord la priorité. Lisons maintenant le verset 18. Une autre épreuve arrive. Elle a donc un fils, et voilà qu'il tombe malade et qu'il va mourir.
Il est
dit qu'il y a, il est juste pas mort. Et la femme fait un reproche à Élie.
Elle
lui dit quelque chose de spécial. Est-ce que tu veux me rappeler mon iniquité, mon mal, mon péché? Alors la parole de Dieu ne nous dit pas quel était le péché de cette femme. Autrefois, probablement qu'elle avait fait un péché grave. Qui maintenant lui revient en mémoire. Peut-être qu'il y avait un lien avec son fils qu'elle avait eu de manière pas correcte. C'est une supposition, mais comme elle fait elle-même le lien entre la mort de son fils et son péché, on peut imaginer qu'il y avait un lien. Alors nous voyons que Dieu, par l'intermédiaire d'Élie, fait réfléchir cette femme. Nous n'allons pas regarder tous les détails. Mais en réalité, il va faire revenir par la puissance de Dieu le Fils à la vie. Il va se coucher sur lui comme s'il s'identifiait à lui. Il va faire cela trois fois. Et le fils va se réveiller, revenir à la vie.
Il
sera guéri. Et il va le remener vers la femme. Et la femme, au verset 24,
Ou Donc nous voyons là que cette femme a eu une expérience spirituelle importante. Il y avait ce péché grave qui était enfoui dans sa mémoire. Il n'était pas confessé par
l'Église.
La présence d'Élie va lui faire mettre en ordre les choses.
Il
l'a reconnu devant Élie, donc d'une certaine manière, devant l'homme de Dieu, qu'il y avait un péché. Il a dit mon iniquité. Il y a peut-être des péchés anciens que nous avons négligé de confesser. Et ça peut arriver que aussi Dieu nous rappelle cela. Alors il n'est pas nécessaire de recevoir une punition. Surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce. Le Seigneur Jésus a déjà payé pour nos fautes. Mais s'il y a des choses anciennes que le Seigneur nous fait remonter à la mémoire, parce que nous faisons des progrès spirituels, Eh bien, il est nécessaire aussi de les confesser au Seigneur. Et nous avançons dans la croissance de notre vie
chrétienne.
Comme cette femme a fait en reconnaissant qu'il y avait Dieu derrière les paroles d'Élie. Maintenant, nous arrivons à un autre chapitre important de ce livre
des
C'est le chapitre 18. La situation du pays est catastrophique. Il y a plus d'eau, et puis les chevaux, même les chevaux du roi, ils vont mourir les uns après les autres. Alors le roi Agab, il va envoyer son intendant, un responsable du palais. Va chercher de l'eau, si tu trouverais de l'eau quelque part pour les chevaux. Et voilà que l'intendant qui s'appelle Abdias va croiser Élie sur le chemin. On peut lire au verset 4.
Mais il y a un petit peu de
Nous voyons que cette méchante reine Jézabel
se dit tout en là, vous tombez, vous dites vous saca Jézabel.
Non seulement elle avait amené le culte de Baal en Israël et à Samarie.
Tiens, bon, nous vous montrez l'intendelelo wa Baal, Musa Malia.
Mais elle faisait mourir l'un après l'autre les prophètes de Dieu.
Wa kenza kabidi bo na yu shifesha kabidi ba prophète banzambi umwe.
Les sacrificateurs qui cherchaient à rester fidèles. Et nous voyons que Abdias, il était tout près du roi et de la reine. Il a utilisé sa position importante dans le gouvernement. Pour cacher des prophètes. Pour les avertir. Sa position était délicate. Parce que d'un côté, au gouvernement, il était tout près du roi et de la reine méchante. Et d'un autre côté, il essayait de cacher les prophètes parce qu'il était un croyant. Il avait trouvé une grotte.
il les avait cachés en deux groupes. Il avait en cachette organisé qu'on leur apporte régulièrement du pain et de l'eau. Il rencontrait
Eli
et lui raconte ça. Et Eli lui dit, on va maintenant faire un test, une épreuve entre les prophètes de Baal et l'Éternel.
Il
dit à Abdias, j'aimerais rencontrer Akab pour lui dire ça.
Abdias
lui dit, mais tu vas te faire tuer.
Mais
Eli avait cette conscience de Dieu qu'il fallait voir Akab et lui parler. Il avait une grande confiance en Dieu. Alors cette rencontre est organisée. C'est Akab qui va venir vers Eli. Et nous lisons qu'est-ce qu'il va dire au chapitre 18, toujours verset 17 à 20.
Mon verset, je vais vous montrer que toi, chapitre 18, je vais vous montrer que tu es un peu
plus.
Alors il dit, le roi, et c'est incroyable, il dit, c'est Eli qui trouble Israël. Eli lui répond courageusement.
Eli, il
est devant le roi. Il dit non, c'est toi qui troubles
Israël.
Parce que vous avez abandonné la voie de l'Éternel. Vous avez suivi les Baals, les idoles. Alors il lui dit maintenant, on va voir qui est vraiment Dieu. Est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est Dieu?
Baal, Agni, Nzambi.
Il dit, allons à la montagne du Carmel. La montagne du Carmel, ça se situe ici.
Très
loin de la capitale. Est proche de la il dit, allons sur cette montagne et amène tous les prophètes. Donc les prophètes officiels maintenant du gouvernement.
Les prophètes
sont des faux prophètes idolâtres. Nous avons lu qu'il y a 400 prophètes, 450
prophètes de Baal.
En plus, il y a 400 prophètes des Asher. Les Asher, c'était l'idolâtrie à Sidon. C'était les principales idoles, Baal et les Asher, les principales idoles de la Phénicie du Liban.
Et
nous voyons que régulièrement, ils mangeaient à la table de la reine. Dans le palais de Akab, il y avait une immense salle à manger. Vous imaginez, il y a ici 850 prophètes
idolâtres.
Nous ne savons pas s'ils étaient chaque jour là. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde idolâtre à la table de la reine Jézabel. Eli leur dit maintenant, venez, on va faire un test sur la montagne.
Eli yuju bambele ni loai, ya ikonenzi jitai tampinje kumukuni.
Et ça va être quelque chose de très spécial. Lisons-le.
Versets
23-24. Pardon, depuis le verset, d'abord le verset
21,
tout
seul. Je t'en jure.
Alors Élie a organisé que beaucoup de monde du peuple d'Israël est venu là. Peut-être plusieurs milliers de personnes qui voulaient voir qu'est-ce qui allait se passer.
Et il y a les
prophètes de
Baal. Ils
sont aussi là. Élie va leur dire maintenant, mais qu'est-ce que vous faites? Combien de temps allez-vous hésiter entre les deux?
Ou bien il
faut suivre Dieu, ou bien il faut suivre Baal, mais pas les deux en même
temps. Ça
montre que le peuple d'Israël n'était pas très à l'aise de suivre les
Baals. Il n'était pas
ouvertement contre
Dieu. Mais
il restait aussi, il tolérait Baal, il suivait en même temps les
idoles. Maintenant
il dit au peuple, maintenant il faut vous décider.
Alors
pour le peuple c'est délicat puisque le roi et la reine ils sont pour Baal et le prophète qui est isolé il est pour Dieu.
Et le
peuple ne répond rien.
Est-ce
que cela peut être des fois des situations de
croyants?
Nous avons des choses dans nos vies qui prennent beaucoup d'importance, des choses du monde.
Mais nous voulons
suivre Dieu en même
temps.
Peut-être que l'argent a beaucoup d'importance, ou peut-être que des affections pas justes aussi de
l'importance.
Il y a beaucoup de possibilités que l'ennemi peut nous donner des tentations.
Mais
d'un autre côté, nous voulons suivre Dieu aussi parce que nous sommes
croyants.
Alors cette parole de nous décider pour le Seigneur est aussi pour
nous. Maintenant,
Élie va organiser deux taureaux.
Apa Élie ou Yahya Kulongola, Kusungula Benjeu, Bimpanga Bibiji, ya.
Un taureau, c'est lui qui va le préparer pour l'offrir en
holocauste.
Et l'autre, ce sont les prophètes de Baal qui vont
venir. Et
lisons les
versets 23-24.
Oui,
Alors, Élie dit, on ne va pas le mettre le feu nous-mêmes. Pour cuire le taureau, pour l'offrir en holocauste. On va prier. Moi, je prie Dieu, vous vous priez Baal. Et on verra qui c'est qui va envoyer le feu. Et le peuple, il a dit, c'est une bonne idée, comme ça, on verra. Alors les prophètes de Baal, ils commencent. Et là nous voyons un peu les cérémonies, un peu de sorcellerie, d'idolâtrie qu'ils faisaient. On voit même qu'ils se font des coupures dans la peau. Alors que Dieu défendait de faire des trous dans la peau.
Mais
c'est une caractéristique de l'idolâtrie, de faire des incisions dans la peau. Et en même temps, Élie, il se moque de ses prophètes parce que le feu ne vient pas. Ils crient, ils font beaucoup de bruit pour appeler Baal, mais il n'y a pas de feu qui
vient.
Et Élie, il se moque, il dit, mais peut-être qu'il est en train de dormir, Baal, il faut crier plus fort. Ça ne vous rappelle pas certains qui crient tellement fort, ils pensent que Dieu
est là.
Et il va se moquer en disant, mais peut-être qu'il est allé faire un voyage. Lisons les versets 26 à 28. Alors là, nous reconnaissons les cérémonies païennes et idolâtres. Beaucoup de bruit, ils sautent et ils se font de brutalités. Mais ça n'a pas de résultat. Maintenant vient le tour de Élie. Et on va pas tout lire, mais c'est très intéressant. Il va demander d'apporter de l'eau. Vous imaginez, il y avait presque plus d'eau dans le pays. Il va demander 3 seaux d'eau. Il va le verser sur son taureau à lui. C'est donc encore plus difficile de le brûler. Et après, il dit au peuple, venez plus près de moi. Il a mis sur un autel, le taureau sur un autel de 12 pierres.
C'est intéressant parce qu'il symbolise l'unité d'Israël. Même si l'unité d'Israël n'est pas réelle puisqu'elle est divisée en deux parties. Ça nous parle aussi à nous. L'unité de l'Église, on ne la voit pas, il y a beaucoup de divisions. Mais nous pouvons quand même donner un témoignage à l'unité du corps de Christ. Quand nous partageons le pain de la scène entre nous, même s'il y a beaucoup d'églises divisées, c'est bien de rappeler qu'aux yeux de Dieu, l'église est un comme un seul pain. Comme un seul corps. Alors quel est le résultat de la prière d'Élie? Nous le voyons prier au verset 37. Nous pouvons lire les versets 37 à 39.
Umungwile wabantu ababa manjene, wewe, Yehowa uzinzambi, le wewe, waka kujimusha mituma yabu kabidi. Pashishe, kateka Yehowa kakapona, panshi, kakosha mulamu, ne unyi, ne mwakwe, ne jimpwe Kenya, ne kakakamisha,
nous voyons donc que Dieu a tout de suite répondu à la prière d'Élie. Le feu du ciel est venu sur le taureau. Avec une grande puissance, même l'eau a disparu. Et finalement, le peuple reconnaît que c'est vraiment l'Éternel qui est Dieu. Nous n'allons pas lire la suite, mais à ce moment-là, Élie, il dit, il faut maintenant purifier Israël de ses prophètes de Baal.
Ils
vont les tuer là, un peu plus bas, près d'une petite rivière. Et puis, ensuite, il va prier pour que la pluie revienne. Il y a eu symboliquement une purification de ce mal qui était en Israël.
Et
Dieu va répondre avec une pluie de bénédiction. Une forte pluie va arriver. Mais nous remarquons que Jézabel n'est pas là. Est-ce qu'elle avait méprisé cela? On ne sait pas. Mais en tout cas, quand elle a appris qu'ils ont égorgé tous ces prophètes, elle s'est mise dans une grande colère. Et elle a dit maintenant, dans l'espace d'une journée, je vais tuer Élie. Et il va envoyer du monde à sa recherche. Et nous lisons maintenant chapitre 19, versets 3 et 4.
Wakanyema kwa kutunila imoyo wani. Pakatika ye kukileshe wa wanguloba kwa Yuda wakash ya
wani.
Mungu wani. Kani ye ye kayani wakayalwe nilu wa kujumwe. Mutu kudu wa kama,
Nous voyons ici que Élie apprend cela. Alors il craint pour sa vie. Et il va marcher une très grande distance.
Il était
donc au Mont Carmel par ici. Il va marcher jusqu'à
Beersheba. Beersheba,
c'est la ville frontière sud d'Israël.
Quelques
jours, il n'arrête pas de marcher. Et puis, il laisse celui qui est désert. À cet endroit, il continue dans la montagne du Sinaï. C'est la montagne
d'Horeb.
Où Dieu s'est révélé à Moïse. Et là, il va monter dans cette montagne.
Il est très découragé.
Et puis nous voyons cette prière qu'il fait à Dieu et il lui demande de le reprendre. Alors, nous voyons que Élie est passé d'une grande victoire à un grand découragement. Il a marché 40 jours, il doit être très fatigué. Dans le désert, en plus, il n'y a rien à manger. Ce qu'il avait peut-être pris pour le voyage, c'est terminé depuis un moment. Mais Dieu ne l'oublie pas. Malheureusement, le peuple ne prend pas sa défense. Cette reine Jézabel est furieuse. Cela nous parle aussi lorsque nous avons un combat victorieux avec le Seigneur. Il faut être très prudent. Ne pas se sentir fort. Parce que peut-être que l'ennemi va nous attaquer encore plus. Et nous risquons un découragement subi. Comme Élie. Alors veillons et soyons sur nos gardes aussi. Mais Dieu n'oublie pas Élie comme il ne nous oublie pas. Lisons le verset 6. Chapitre 19, verset 6. Donc Élie s'est endormi complètement découragé, fatigué. Et le frère Michel nous a parlé de des anges ce matin. C'est un ange qui est envoyé par Dieu et qui lui prépare quelque chose à manger. Et à boire. Il touche Élie et le réveille. Élie regarde, il ne voit pas l'ange. Mais il voit la bonté de Dieu. Un gâteau qui est déjà tout prêt
aussi.
Et une cruche avec de l'eau. Alors il a repris des forces.
Et
il a toujours beaucoup de fatigue et il va redormir. Puis cela va continuer. Et puis il reçoit des encouragements de la part de Dieu.
Nous
n'allons pas lire tout le détail.
Nous allons lire les versets 15 à 18.
Tu te balances nouvelle fois du monde mouita non ne peut pas du monde manda mukul.
Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps.
Alors Élie à la montagne juste avant a reçu des encouragements de Dieu en sorte que il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu, il y a eu beaucoup de choses terribles là dans cette montagne.
Du temps en temps, il y a des gens qui ont été mis en place,
mais l'Éternel n'était pas dans ces tempêtes, dans ces rochers, dans ces tremblements de terre. Mais après, il y a une voix douce et subtile. Et Élie a compris que c'est Dieu qui arrivait.
Il
s'est dans la caverne où il était, il s'est mis à l'entrée et s'est enveloppé d'un manteau.
Il a eu une
révélation de la présence de Dieu qui l'a encouragé
beaucoup.
C'est aussi encourageant pour nous de voir que Dieu était là avec cette voix douce et subtile.
Et
dans les derniers versets que nous avons lus, Dieu lui donne la suite de sa mission. Il y a trois choses. Il doit oindre Hazael, le roi de Syrie.
Il
va être un roi très méchant contre Israël. Que Dieu va utiliser pour punir Israël. Israël avait vu ce grand miracle avec les prophètes de Baal. Mais ça ne va pas changer beaucoup dans leur vie. Ensuite, il devra oindre
Jéhu
pour lui signifier que plus tard, il devra venir roi d'Israël. Plus tard, c'est un roi que Dieu va utiliser pour éliminer cette terrible maison de Akab. Avec cette famille idolâtre. Et troisièmement, il devra aussi montrer à Élisée qu'il deviendra prophète après lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette partie.
Et
demain, Dieu voulant, eh bien, nous continuerons avec cette histoire de Élie et du roi Akab.
Et
nous verrons aussi le ministère de Élisée en grand prophète.
Toi, ça qui
dit là.
Merci. Ok, si tu nous aides à toi ce qui dit là. Oui, c'est pas grave.
C'est ça? Ephésiens 1, 17. L'idée, c'est si les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ l'a donné pour être chef, tête, surtout à l'Église qui est son corps. Voilà.
lorsque nous nous adressons à notre Père, nous devons nous adresser au librement.
Mais tout le monde s'adresse à son Père. Mais tout le monde s'adresse à son Père.
Et il n'est pas notre Père physique.
Qui s'adresse à son homme au village?
Il est notre Père, il est dans les cieux.
Et nous
devons le glorifier.
On n'est pas obligé de
répondre les mêmes mots.
Mais
nous savons pourquoi nous nous adressons à Dieu. Parce
qu'il est notre Père, il est capable de trouver une solution. Et quand ton règne,
que ton règne vienne,
nous devons
faire attention à qui le Seigneur s'adresse. Je ne vais pas te dire, il y aura notre frère qui va compléter.
Mais
est-ce qu'il est possible de prier Dieu pour qu'un ange puisse nous soutenir? Parce qu'il y a des gens qui prient que l'ange Dieu, envoie-moi un ange pour me protéger.
Bon,
nous ne pouvons pas forcer Dieu à faire ce que nous voulons.
Rappelons-nous
du Seigneur,
au jardin
de Gethsémané, il a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Et nous ne pouvons pas montrer à Dieu la voie à suivre. Je pense que notre problème, c'est de nous adresser à lui, de prier Dieu, c'est tout.
C'est
Dieu qui va trouver, qui va chercher pour notre bien la voie par laquelle cette protection que nous attendons va venir.
Et Zambi, qui vous y a pour que bas,
il peut nous envoyer un ange. Il peut nous envoyer un frère. Il peut alléger les circonstances par quelque chose. Mais nous ne pouvons pas lui demander simplement de faire ça.
Il est souverain.
Et c'est de solution à
vos problèmes.
Mais s'il est biblique aujourd'hui d'implorer le feu du ciel dans nos prières,
est-ce que Jésus fait le point du conduit pour les prières quand Jésus l'a fait à mon Dieu, quand l'on met Elia, mon Dieu conduit dit Aïe.
Et que ce feu vienne qui descende sur le diable.
Ah, quand il y a ta foi, que ta foi nous qui le bat diable ou le caboche.
Et que ce feu vienne qui détruise nos ennemis.
Ah, quand il y a ta foi, que ta foi nous qui le bat diable ou le caboche.
Est-ce que nous pouvons prier comme ça? Est-ce que c'est biblique?
Mais est-ce qu'il y a
des prières comme ça, on peut implorer? Ça
se fait?
On a déjà entendu?
Nous avons vu
que le feu vienne, feu.
Oui,
c'est vrai, on a entendu ça.
Adieu.
Alors je laisse à Jacques de répondre à cette question et puis c'est
un autre moment. Moi, Jacques, je ne vois pas dans mon oculo quoi, nous ne pouvons pas s'acquitter là à mon mal, nous ne voulons.
Alors deux mots là-dessus. Il y a un moment donné où le Seigneur était avec les disciples.
Vous dites ce qu'on doit chacun de vous quel est le point qui ne va y aller.
Ils ont eu l'opposition. Et il y en a qui ont demandé, Seigneur, tu veux qu'on va descendre le feu du ciel, tu veux? Et le Seigneur
dit
non, c'est pas pour ça qu'il était venu. Il a permis dans une circonstance spéciale pour Élie que nous verrons demain.
Ah.
mushinga musunguluke kujejiya kutwa zimunakamuna kelela.
Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose à copier pour chacun de nous.
Parce que
comme nous sommes dans un temps de la grâce où on cherche à évangéliser.
Et après,
nous avons un enseignement très complet dans les églises.
Les disciples se
présentent spécialement la doctrine de l'enseignement pour le temps de l'Église.
Mais nous avons dit que nous étions l'Épître, il dit déjà, mais il y a un peu de temps de l'Église, mais il y a un peu de temps de l'Église.
Il y a des éléments de doctrine de l'Ancien Testament.
Kuji amumalu aji abeja maisha antako kujimwele chukulukulu.
Surtout la loi pour le peuple juif.
Nana, nikeji kwa chisa mechi cha bene yuda.
Il y a des éléments de doctrine dans les évangiles.
Kaji kuji maisha antako mu lumu bife.
Ils sont à la charnière du peuple juif et de l'église.
Kaji lupi kade paka chikachi. Liye pombudusha chisa mecha bene yuda. Nisi kwa mbudusha kabiji. Bene kwa mbuja muna maekele.
Il y a des éléments de doctrine dans l'Apocalypse, depuis le chapitre 4 pour la prophétie.
Parce que je suis allé là, on voit comme lui, pourquoi on est là, nous sommes comme Inaï, je suis allé là, c'est un prophète.
Mais ce qui concerne spécifiquement nous qui sommes l'Église,
je suis allé là, vous devez travailler sur ce prophète, vous devez être comme l'Église.
Ce sont les épîtres dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse.
Nous voyons que toi, Nata, pour que chaque pays accompagne les histoires, nous allons voir comme lui, voir.
Le frère Michel a parlé des anges.
Moi, le frère Michel, au beaucoup de voix d'Angelo.
Et il y a eu aussi mentionné l'archange Michel.
Moi, je vais vous dire Michael et Michel.
Il y a une contestation entre l'archange Michel et le diable.
Moi, je vais vous parler de ce que vous avez dit. Quand tu vas, Michel et moi, je le diable.
On ne connaît pas bien les détails de cette contestation.
Parce que le
sujet
qu'on a dit, il faut que
c'était en rapport avec le corps de Moïse.
Là, après, il faut que les gens ne
soient
pas en train de se faire.
Ou est-ce qu'ils se trouvent,
etc. Probablement
que le diable aurait aimé faire du lieu de la tombe de Moïse un lieu d'idolâtrie.
Moi, le diable, je ne sais pas si je vais le passer. Moi, je vais le juger que c'est un chabot, c'est un chabot.
Comme on sait que malheureusement, il y a eu dans les siècles de l'Église des reliques que l'on a gardées pour faire une adoration de
ça. Ah, vous me dites ça, nous avons déjà été dit, il y a quand même une belle de l'Église, de l'Église.
Voilà peut-être une dent de l'apôtre Jean qu'on va faire récipient en or pour l'adorer.
Ah, mais je m'en ai dit, nous, dans mon poste, le pion.
Et ce n'est probablement pas par hasard que Dieu sait seul où se trouve le corps de Moïse.
Maintenant,
Dieu d'une manière générale, il dit c'est à moi la vengeance,
ce
n'est pas à vous de vous venger.
Quand Dieu vous dit que vous avez dit que vous avez dit
qu'il y a des ennemis de la foi chrétienne. Il y en a beaucoup naturellement dans ce monde. Qui essaient de nous détourner par la philosophie, par des faux raisonnements. Il y a ceux qui sont des ennemis par l'idolâtrie ou la
sorcellerie.
Il y a des ennemis par des gouvernements, par exemple le communisme qui persécute les
chrétiens. Mais
on ne voit pas d'exemple dans les épîtres où il est demandé
de faire descendre du ciel.
Alors il y a peut-être dans certains milieux peut-être plus charismatique.
Il
font des prières d'autorité pour condamner les ennemis ou les démons.
Il faut des prières d'autorité pour condamner les ennemis ou les démons. Diabolo, il y a des gens qui ont été en train de se faire. là.
Je ne connais pas de cas où on a vu le feu du ciel des gens.
Parce qu'il y a des tentations, des choses mauvaises qui se présentent devant nous.
Dans certaines situations,
comme Joseph, par exemple, avec la tentation de la femme de
Potiphar.